En fait, c'est plus poussé que ça. C'est vraiment ancré dans notre culture. À tous les niveaux chez Agicap, on ressent cette culture. On ressent que tout le monde est là pour créer le meilleur produit.
Bonjour à tous, bienvenue chez Innovation Leaders, le podcast de la communauté Together by Tech, propulsé par Equiden, qui a pour objectif de vous inspirer et vous donner des tips pour une meilleure utilisation de la tech au service de votre performance personnelle, de celle de votre équipe ou encore celle de votre organisation. Aujourd'hui, nous recevons Luca Bertola, qui est CTO et co-founder de Agicap, startup, voire même scale-up, originaire de Lyon, qui a été créé en 2016 par trois talentueux co-founders, Sébastien, Luca et Clément. Et pour ceux qui suivent la French Tech, vous connaissez déjà Agicap. Pour les autres, le nom ne vous dira peut-être rien, mais le sujet qu'ils adressent, sûrement. Agicap est une plateforme SaaS qui permet aux PME et TPE européennes de gérer leur trésor. Et ça, en particulier dans les temps qui courent, ça parle à tout le monde. Comme d'habitude, vous retrouverez toutes les notes de ce podcast sur notre site togetherbytech.com. D'ici là, bonne écoute. Salut Lucas.
Salut Geoffrey.
Merci de passer sur Innovation Leaders.
Avec très grand plaisir, je suis content d'être ici avec toi.
Bon, on a une actualité assez forte, pas mal de sujets à voir ensemble. Toi, tu es donc CTO et co-founder d'Agicap. Tu peux nous rappeler, en quelques mots, le positionnement d'Agicap, nous donner aussi quelques chiffres clés, qu'on se rende compte un peu de la dimension de votre boîte aujourd'hui et surtout de la dynamique dans laquelle vous êtes.
Oui, bien sûr. Du coup, Agicap, c'est une solution SaaS qu'on a créée en 2016 avec Sébastien et Clément et qui est en B2B. C'est une solution qui se veut extrêmement simple pour aider les petites et moyennes entreprises à mieux se gérer par l'intermédiaire de leur gestion de trésorerie. En fait, le produit il est axé sur trois grands axes. Le premier, c'est fournir une vision exhaustive et complète de l'ensemble des flux de trésorerie de nos clients à un seul et même endroit. Le deuxième, ça va être capable d'automatiser toute leur gestion de trésorerie qui jusqu'à présent leur prend beaucoup de temps. Et la troisième, c'est être capable d'être un outil d'aide à la décision. Par exemple, le dirigeant va être capable de simuler qu'est-ce qui se passe s'il y a un troisième reconfinement. Qu'est-ce qui se passe si le confinement dure 2 mois de plus? Qu'est-ce qui se passe si j'investis dans telle nouvelle machine? Il va vraiment être capable de prendre des décisions grâce à Agicap. Et du coup, notre histoire, elle fonctionne plutôt très bien. On avance plutôt très vite. On arrive à faire 20% de croissance tous les mois. C'est ce qu'on appelle de l'hypercroissance. Et on a 100 employés aujourd'hui. On a levé 2 millions d'euros il y a à peu près un an. Il y a 6 mois, on a relevé une série A de 15 millions d'euros. Et on a passé le cap des 3000 clients en France. Et on commence à se développer à l'international.
Ok. Vous vous adressez à qui comme type de société, comme type d'acteur ?
L'idée, c'est que la trésorerie, ça touche tout le monde. Le petit artisan va autant avoir besoin de gérer ses comptes que l'énorme société qui va avoir des filiales dans le monde entier.
Ok. Et du coup, vous êtes capable de couvrir un tel scope ?
Exactement. Exactement. C'est d'ailleurs un des enjeux de produit d'Agicap, c'est de réussir à garder un produit simple, malgré que l'éventail des features reste quand même différente suivant la topologie de client.
Oui, j'imagine. Ok. Et tu parlais tout à l'heure de gestion de trésor dans une phase de Covid. Je pense qu'on a tous été impactés par ça. Concrètement, le Covid a eu quel impact sur votre activité ? J'ai le sentiment, d'après ce que tu dis, en tout cas, que ça a révélé la nécessité de gérer sa trésor et donc d'utiliser une solution comme la vôtre.
Alors du coup, il y a eu effectivement pas mal d'impacts. Pas tous positifs. Le premier impact qui est évident, c'est organisationnel. On a dû s'organiser autrement pour être capable de continuer notre croissance malgré que tout le monde était en full remote. C'était vraiment quelque chose d'important pour nous, que ça nous ralentisse pas. Et le deuxième, c'était d'un point de vue beaucoup plus client. C'est comment on va réussir à, malgré cette crise, toujours répondre au mieux possible aux problématiques de nos clients. Donc, comme tu viens de le dire, les enjeux de trésorerie étaient d'autant plus importants dans cette crise de Covid, mais il y avait aussi d'autres enjeux. Il y avait aussi des enjeux de sensibilisation aux différentes tranches de métiers. C'est-à-dire que, par exemple, un restaurateur n'avait pas tout le temps cette prise de conscience qu'il pouvait faire autre chose que d'être passif, que d'attendre, qu'il pouvait prendre des décisions pour vraiment s'assurer d'être serein demain. Et du coup, tout ça a fait qu'on a réussi vraiment à s'adapter et à continuer notre croissance malgré la crise.
Ok. Et vous, si je t'entends, et d'ailleurs, je l'ai vu un peu dans deux, trois échanges que j'ai eu avec Agicap, mais j'ai l'impression que vous avez aussi un rôle de coach, enfin, en tout cas, vous avez un rôle d'accompagnement au-delà de l'outil dans la gestion de cette problématique de trésor.
Exactement. On a créé une communauté qui s'appelle Cash is King, où on invite les différents chefs d'entreprise ou différents métiers liés à la gestion d'entreprise à se regrouper. L'idée, c'est que, et entre eux, ils puissent se donner le maximum de conseils de comment réussir à gérer leurs problématiques quotidiennes. Et aussi, nous, on va leur apporter notre savoir et notre expertise dans la gestion d'entreprise.
Ok, je crois que ça a été un bon carton. Cette communauté est assez dynamique, en plus, avec la crise qu'on vient de passer.
Ça a effectivement apporté pas mal de valeur aux gens.
Ouais. Effectivement, je ne sais pas combien il y a de milliers de personnes, mais j'ai l'impression que la dynamique est bonne. Juste avant de parler de la tech et de l'organisation interne d'Agicap, ça m'intéresse à titre perso de comprendre ton parcours. Parce que toi, tu es passé, si je ne dis pas de bêtises, par la fac, par une école d'ingé aussi, Supinfo. Pas forcément des écoles qui te forment à l'entrepreneuriat. Ça t'est venu comment, cette envie de monter ta boîte?
Du coup, la réalisation de projet, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours énormément plu. C'est-à-dire que pour un peu resituer dans mon historique, moi, j'ai appris à développer à mes 10 ans. Dès mes 10 ans, je passais mes soirées à apprendre et j'allais même jusqu'à parfois imprimer la documentation que je lisais pendant mes cours. J'ai appris très, très tôt à développer et très vite, je me suis rendu compte que c'était pas le développement en soi qui me faisait vibrer, c'était vraiment la réalisation de projets par cet outil qui est le développement. Et du coup, j'ai pu créer énormément de petits projets dans mon enfance, du coup 10 ans, c'est encore enfant, puis après dans mon adolescence. Et en parallèle, quand j'avais des loisirs, type à l'époque, je jouais pas mal à O Game, je sais pas si tu peux t'en souvenir, ce qui m'intéressait dans ces jeux, c'était pas tant le jeu en lui-même, c'était tous les systèmes d'alliance. Ça me faisait énormément vibrer de créer des alliances, de passer du temps à recruter des gens pour faire grossir cette alliance, les bonnes personnes, à trouver des process pour que les gens puissent s'organiser entre eux, etc., etc. Donc vraiment, j'avais cette passion du projet et d'être capable de fédérer les gens. Et cette passion, elle m'a vraiment tenu la peau jusqu'à aujourd'hui, qui est que, comme tu as dit, après mon bac, j'ai fait une fac de maths et ensuite j'ai fait Supinfo. Les deux se sont très bien passés vu que j'ai fini major des deux. Mais pour autant, ces années m'ont énormément appris en entrepreneuriat parce que je passais tout mon temps libre à créer des projets entrepreneuriaux. J'en ai créé énormément. J'ai beaucoup appris. J'ai créé des choses qui étaient, avec le recul, je me demande comment j'ai pu faire des erreurs aussi grandes, mais au moins je les ai faites et j'ai pu apprendre. Et du coup, Agicap, ça s'inscrit vraiment dans cette continuité de projet. Pour moi, c'était une certitude que ma vie, je la passerai à entreprendre.
Ok. Et tu codes toujours aujourd'hui?
Je code très très peu. Je passe beaucoup plus de temps à faire en sorte que Agicap continue à croître et à faire en sorte que les choses se passent très très bien en interne, plus qu'à programmer.
Ok. En tout cas, donc c'est une continuité et non, t'es né développeur et entrepreneur. Et si on se remet quelques années en arrière, pas si longtemps que ça, en 2016, comment vous en êtes arrivé à vouloir adresser le sujet de la trésor, des PME et des TPE, et voire même maintenant des grands comptes à l'international? Et d'ailleurs, quand vous décidez de vous lancer, concrètement, vous démarrez comment? On démarre par quoi? Et tu t'y prends comment pour développer ton MVP notamment?
Du coup, tout commence par la rencontre de Sébastien et Clément. Sébastien et Clément sont des personnes qui sont extrêmement talentueuses Moi, j'ai tout de suite su que je voulais faire quelque chose avec eux et faire quelque chose de grand. Et c'était quelque chose qui était réciproque. Et du coup, notre façon de faire à nous trois, ce n'était pas d'avoir une idée et de prouver au monde entier que votre idée, c'est la bonne. Notre façon de faire, c'était, on ne sait pas ce qu'on va faire ensemble. Quand on a créé la boîte, on ne savait pas ce qu'on voulait faire ensemble. Mais on savait qu'on voulait répondre à un problème. C'était vraiment ça le cœur de notre mentalité. On voulait trouver un problème et trouver une solution. Du coup, on a passé beaucoup de temps à interviewer beaucoup d'entreprises et on a testé plein de trucs. C'est-à-dire que moi, de nous trois, je suis le seul qui avait des compétences en développement. J'ai créé pas mal de petits front-end en moquant le bac, c'est-à-dire qu'en fait, c'était une simulation d'application fait rapidement qui simulait qu'il y avait une application, mais en fait, il n'y avait rien. Et on donnait ça aux dirigeants en fonction de la problématique qu'eux disaient qu'ils avaient tous les jours. Et on regardait si ça répondait à leur problématique. Et en fait, plus le temps a passé, plus on s'est rendu compte qu'il y avait un sujet qui revenait souvent, qui était celui de la trésorerie. Et en plus de revenir souvent, les solutions qu'on y avait à y apporter marchaient. C'est-à-dire que les gens, quand on leur montrait notre petit front-end, ils étaient frustrés qu'on leur laissait pas. Et on pouvait pas leur laisser vu que c'était qu'une simulation. Ils voulaient l'utiliser. Donc du coup, on a vraiment commencé à capitaliser sur cette idée-là, à commencer à construire quelque chose de vrai cette fois-ci, vraiment ce qu'on peut appeler un MVP. Et là, on a su que c'était vraiment la bonne direction, que vraiment on avait touché quelque chose, c'est quand on commençait à avoir des retours de nos clients qui nous disaient « on peut de nouveau dormir la nuit ». Ça, c'était ultra puissant qu'un client te dise ça. Et vraiment, à ce moment-là, c'était lancé.
Ok, mais vous avez vraiment monté la boîte sans savoir ce que vous alliez en faire ?
Ouais, on savait que c'était en B2B, on savait que c'était sûrement une solution SaaS. Mais après, le
c'est
reste.
C'est vrai que c'était ensemble, mais on savait pas quoi.
Exactement.
Ok, canon. Et c'est marrant parce que t'es pas le seul. Il y a pas mal d'entrepreneurs qui se posent la question de se lancer, mais qui se disent j'attends l'idée. Mais en fait, il y en a d'autres qui se lancent sans avoir l'idée et elle vient après.
C'est pas. Pour l'histoire, c'est encore plus marrant que ça. C'est que Clément, on s'était énormément parlé par Skype, mais on s'était jamais rencontré au moment de la signature de la boîte.
Ah, carrément. Et vous étiez rencontrés comment? Avec Clément et Seb?
Du coup, Seb, on s'était connus par l'intermédiaire d'un de mes anciens projets entrepreneuriaux. Et donc, du coup, du fait que Seb avait envie d'en monter un, il est venu vers moi. Et du coup, on a pris le temps de tous se rencontrer comme il faut. Et du coup, on a su qu'on voulait faire un truc ensemble.
Bon, et du coup, là, c'est à ce moment-là que la fusée a décollé. Et parle-moi des grandes phases de la croissance d'Agicap. Entre les phases de lancement où vous êtes 3 et les phases plus matures, où là, aujourd'hui, vous êtes 100 sur plusieurs pays. Mm-hmm. Comment tout ça s'est construit et quelles sont les grandes phases que tu peux nous décrire?
Du coup, au début, on était du coup que 3. On était vraiment tous à tous les postes, on essayait un peu de tout faire. On avait quand même des mini-spécialisations, c'est-à-dire que Clément faisait particulièrement la vente et le produit, et Seb faisait pareil, la vente et le produit, et moi faisais particulièrement le développement et le produit. Mais plus en fait on a commencé à avoir de traction, plus il a fallu commencer à se spécialiser, et ça c'était d'autant plus vrai qu'on a commencé à recruter. C'était bien évidemment, on peut pas continuer à tout faire tout le temps. D'ailleurs, c'est pour ça que aujourd'hui, je m'occupe uniquement de la partie engineering, donc de la partie développement pour simplifier. Et du coup, quand on a commencé à recruter, les premiers recrutements sont capital, et vraiment capital. C'est que ce qui fait la réussite d'une boîte, c'est avant tout les gens qui la composent. Si les gens sont talentueux, ta boîte sera beaucoup plus à même à exploser que si les gens sont un peu plus traditionnels. Et donc, du coup, on a pris le temps de recruter les bonnes personnes au début. Et plus, du coup, on a commencé à avoir des nouveaux recrutements, plus il a fallu structurer la société. Donc, on a créé différents services. Donc, il y a le service engineering, que je dirige. Il y a le service produit. Il y a le service support. Il y a le service marketing, il y a le service sales, de vente, et très important pour nous, pour notre croissance, il y a aussi le service de talent acquisition, donc le service de recrutement. Et en fait, au fur et à mesure de la croissance, les enjeux, c'est de réussir à continuer bien s'organiser malgré que les gens arrivent de plus en plus vite. C'est-à-dire qu'au début, il y avait une personne tous les 3 mois qui arrivait, après c'était une personne tous les mois, après c'est une personne toutes les 2 semaines, maintenant c'est 5 personnes toutes les 2 semaines. Et ça va aller de plus en plus vite comme ça. Et malgré cette arrivée de nouveaux talents chez AgiCap, réussir à garder cette même agilité au quotidien, qu'on puisse faire son travail aussi bien que quand on était 10 personnes que maintenant qu'on est 100 personnes. Ça, c'est vraiment notre enjeu de croissance.
Ok. Et du coup, les croissances, on parle aussi de croissance géographique. Quelle est la roadmap qui est prévue là? Parce que vous êtes en Allemagne depuis peu. Je crois qu'il y a eu un très bon démarrage là-bas. J'ai entendu parler de l'Espagne aussi. Qu'est-ce qui est prévu un peu?
Tout à fait. Donc du coup, comme tu viens de le dire, on a commencé l'Allemagne il y a à peu près 1 mois et demi. Ça marche extrêmement bien. On a nos 100 premiers clients. Et du coup, l'idée, ça doit vraiment être capable de... Nos ambitions, elles sont très claires. On veut être un acteur mondial de la gestion de trésorerie. Donc du coup, il faut y aller step by step. On commence aujourd'hui par l'Allemagne. Demain, il y aura sûrement l'Espagne, l'Italie. Mais l'idée, c'est qu'on va vraiment s'étendre le plus possible dans toute l'Europe, dans notre plan de croissance.
Ok. Et l'Allemagne, vous l'aviez choisi comment en tant que premier pays? Pourquoi ce pays-là?
Du coup, on a effectivement fait pas mal d'études de marché dans tous les différents pays et d'Europe et plus grand. L'Allemagne nous a vraiment paru un pays important pour commencer, pour plusieurs raisons. La première, c'est que mine de rien, le marché est très grand, plus grand qu'en France. Mmh. Et la deuxième, c'est qu'on a vraiment vu que s'il y avait bien un pays d'Europe qui souffrait de ces problématiques de gestion de trésorerie, encore plus que la France, c'est l'Allemagne. Donc c'était vraiment un pays qui était tout trouvé.
Ouais, effectivement. Et par rapport, si on parle un peu de product market fit, quand tu déploies ta solution dans un pays comme l'Allemagne ou comme l'Espagne bientôt, est-ce que on parle de la même solution qui est déployée dans ce pays-là ou est-ce que tu as des adaptations? Et dans ces cas-là, comment tu assures un peu le product market fit dans ce nouveau pays?
Alors nous, une des chances qu'on a, c'est que gérer la trésorerie, la notion même d'argent, c'est la même que quel que soit l'endroit de la planète. Ouais. C'est une chance qu'on a, c'est que nous, on est vraiment à l'échelle de trésorerie, on n'est pas à l'échelle de comptabilité. Donc, autant à l'échelle comptable, quand il veut changer d'un pays à un autre, toutes les lois, ouais, toutes les législations changent, autant quand tu changes d'un pays à un autre, le fait que si tu dépenses plus d'argent que tu en fasses rentrer, que tu n'es pas rentable, ça reste vrai. Donc du coup, il y a quand même des adaptations à faire. C'est-à-dire qu'en fait, dans la mentalité de comment on gère une boîte, les mentalités changent d'un pays à un autre, donc il ne faut pas le sous-estimer. Mais pour autant, les très grands axes restent les mêmes. Et du coup, on s'adapte pour chaque pays. On est vraiment dans le détail qui fait que ça va marcher. On n'est pas dans la restructuration complète du produit.
Ouais, t'affines ta solution.
Exactement.
Bien. On parle un peu de la tech. C'est l'objet de nos échanges. Elle ressemble à quoi la team tech aujourd'hui d'AgiCap? Enfin, je veux dire, en termes de taille, en termes d'organisation.
Du coup, aujourd'hui, les gens qui la constituent sont majoritairement des gens qui ont un niveau senior. Et on est organisé et en full remote et en présentiel. Pour rappel, on a nos locaux sur Lyon. C'est à peu près du 50-50. Et les équipes sont organisées par squad. Donc en fait, c'est quoi une squad? Ce sont des équipes qui ont en leur sein tout le panel de compétences nécessaires afin de réaliser une feature. Donc ça va passer par exemple par des gens qui sont front-end, par back-end, full stack. On va aussi retrouver des product managers, des product designers. Bref, les gens peuvent à eux seuls faire une feature et les équipes sont découpées les unes des autres par périmètre métier. L'idée, elle est double. C'est que à la fois, les équipes doivent pouvoir développer sans se marcher dessus. C'est-à-dire que faut pas qu'on se retrouve dans une situation où pour développer ma feature, il faut que j'attende que telle équipe ait fait telle feature qui elle-même attend une autre équipe ou ce genre de choses. Il faut vraiment qu'elle soit indépendante. Et aussi pour que chaque équipe puisse s'intégrer de ce qu'elle fait, de son périmètre et vraiment monter en compétence sur le produit pour être aussi force de proposition, c'est-à-dire que même si les techs sont pas au produit, ils ont tout leur mot à dire sur les différentes solutions possibles pour les différentes features. Mais ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est que malgré que les périmètres métiers et les squads sont très bien séparés, moi, ça m'est important que les gens puissent changer de squad s'ils le désirent. C'est-à-dire qu'une fois tous les trimestres, on laisse la possibilité aux gens de changer de squad s'ils désirent voir des choses nouvelles, voir de nouvelles personnes. Ou alors que, par exemple, il y a un nouveau périmètre métier qui s'ouvre, qui, eux, les intéressent particulièrement, qui puissent aller y travailler. Par expérience, les gens le font peu, tout simplement parce que habituellement, ils sont bien dans leur... Ils sont bien dans leur équipe et avec les gens avec qui ils travaillent et ils sont un peu réticents à tout changer. Mais
l'équipe qui s'installe, quoi.
Exactement. Mais en tout cas, ils sont très contents de se dire que si demain ils peuvent travailler sur un nouveau projet, ils peuvent. Donc du coup, ça c'était vraiment pour l'organisation en équipe. Pour ce qui est du travail au quotidien, on est sur des sprints de 2 semaines. Donc en agilité avec les cérémonies classiques de la planif, de la daily, de la rétro. Pour ce qui est de la rétro, c'est vraiment nous, notre cérémonie qui est la plus importante. C'est-à-dire que le changement, c'est au centre de notre façon de travailler. C'est que, en fait, dans un contexte d'hypercroissance, les problèmes, il y en a et il y en aura. C'est normal qu'il y ait des problèmes. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est que ces problèmes persistent. Et elle sert à ça, la rétro. Elle sert vraiment à constamment trouver des solutions pour s'améliorer et mieux s'organiser au quotidien. Donc du coup, ça c'est pour toute la partie sprint. Sinon, comme d'ailleurs j'ai pu le dire, dans la squad, il y a des gens qui sont du produit. J'ai pu citer le product manager, le product designer. En fait, la relation avec le produit au quotidien dans les équipes, elle est très forte parce que on pense que pour être capable de bien comprendre le métier et pouvoir bien le restituer dans le code et dans l'architecture, il faut être proche du métier. Il ne faut pas que ça soit uniquement quelqu'un qui va t'écrire une spec et vas-y, démerde-toi avec. Vraiment, la relation avec le produit, elle est super importante. Et en fait, les relations humaines sont importantes. C'est-à-dire que là, on parle avec le produit, mais aussi on parle aussi avec les gens au sein d'une équipe. C'est que on peut avoir le plus beau projet au monde avec les plus belles technologies, si les gens n'aiment pas travailler ensemble, c'est juste pas la peine. Et du coup, on essaye de faire en sorte de garder la meilleure ambiance possible, ne serait-ce qu'au niveau des recrutements. C'est-à-dire que quand on sent qu'une personne va mal s'intégrer, même si elle est bonne techniquement, on va préférer ne pas l'intégrer. Mais après, ça va être avec pas mal d'événements. À l'époque où il n'y avait pas le Covid, on faisait pas mal d'apéros, de bières. On fait aussi pas mal de soirées gaming. On mange ensemble en visio à midi. Bref, on essaye vraiment d'être une équipe.
Et il y a combien de personnes dans cette équipe tech?
Si on compte le produit, on compte 8 à 9 personnes.
Et du coup, tu as combien de squads?
Aujourd'hui, on a 3 squads. Et il y a tout à penser qu'on a au moins une nouvelle squad par trimestre.
Ouais, ça va être assez sport. Les sprints de 2 semaines sont déjà sport à la base, donc le rythme en lui-même est déjà bien cadencé. Tu nous dis qu'il y a des gens qui sont en remote, d'ailleurs 50%, c'est pas rien. Mm-hmm. Comment tu fais pour que les gens en remote se sentent intégrés justement? T'as des routines qui ont été mises en place?
Du coup, effectivement, on recrute pas mal en remote et ça se passe vraiment très bien. Je pense que vraiment le secret, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas des first class citizens qui sont locales et des second class qui sont à distance. Vraiment que tout le monde soit intégré de la même façon. On a plusieurs choses qui ont été mises en place pour s'en assurer. La première, ça se passe vraiment au tout début. C'est que on invite... en fait, tout ce que je vais dire qui a été mis en place, faut savoir que tout est facultatif. Donc, du coup, on invite de façon facultative les gens à venir une semaine entière à leur arrivée, donc avec les frais de transport et frais d'hébergement remboursés, bien entendu, justement pour qu'ils puissent s'imprégner de l'entreprise, voir en personne et physiquement tous les différents services, pas que la tech, et vraiment pouvoir se dire, OK, moi, je fais partie d'Agicap, et Agicap, c'est ça. Et donc ça, c'est au début. On les invite, on les encourage à venir au moins un jour par mois sur Lyon, un ou deux jours par mois pour pareil, continuer à entretenir les liens. En plus de ça, on a mis ce qu'on appelle des Dust Coffee. C'est en fait, au lieu de, à ta pause, de prendre une clope ou un café tout seul chez toi, si tu le désires, tu vas être matché automatiquement avec une personne de la société, de n'importe quel autre service, justement pour faire ta pause avec elle. Et du coup, ça va te permettre vraiment de rencontrer des gens de tous bords et de vraiment de pouvoir créer un lien social qui est habituellement très apprécié. Ce qu'on met aussi en place, c'est pas mal de BBL. Je ne sais pas si ça te parle. Des BBL, c'est Buns, Bag, Lunch, Cheese.
Ah, ok.
C'est à midi pour quelqu'un qui va venir, du coup, en visio, présenter un domaine qu'il a envie d'apprendre aux autres. Typiquement, là, récemment, les deux domaines qui ont été présentés, c'était un sur machine learning et un sur F-Sharp. Et du coup, les membres qui s'intéressaient ont pu manger en discutant de ces sujets et en pouvant voir la présentation d'autres. Ça, c'est des choses qui font plutôt bien plaisir aux gens. On met aussi un système qui se veut très transparent au niveau de l'entreprise. On communique beaucoup. Typiquement, une fois par semaine, on réunit tout le monde et tout le monde de tous les services, hein, et on fait un point global de l'entreprise. Quelle est notre stratégie? Pourquoi on y va? Qu'est-ce qui s'est bien passé? Et aussi, qu'est-ce qui s'est mal passé? On donne les chiffres aussi, les nouveaux revenus, le nouveau CA, etc. Et on laisse le temps aussi à poser toutes les questions que les gens se poseraient. Mais de tout ce que je viens de dire, il y a une chose qui est ultra impactant et qui, s'il y a vraiment une seule chose à dire, ce serait celle-ci, c'est notre système de code review. La code review, pour rappel, c'est une façon que quand quelqu'un a fini du code, fini une feature, qu'un autre développeur va aller la relire pour s'assurer qu'elle soit bien faite. Nous, notre code review, elle se fait en peer reviewing. C'est-à-dire que quand un développeur va finir sa feature, il va aller rentrer en contact avec un autre tech, n'importe qui de son équipe qui est disponible, et ils vont se mettre en visio, et souvent en partage d'ordinateur, par exemple avec un TeamViewer, et ils vont ensemble parler et discuter du code qui a été fait, et pas uniquement pour vérifier s'il a été bien fait, aussi pour apprendre de l'un de l'autre. On est vraiment sur du « Ah tiens, t'as fait comme ça, moi j'aurais fait comme ça, ah oui, t'as raison, ce que moi j'aurais fait, ça marche pas parce que ça, si, ça. Ah tiens, c'est marrant, t'as utilisé telle partie de l'architecture, je connais pas, tu peux m'expliquer comment ça marche, etc. » T'as vraiment ce lien social qui se crée. Et en fait, entre les moments où tu reçois du peer reviewing ou le moment où t'en donnes, en fait, tout le monde est très souvent en contact avec tout le monde. Les liens sociaux, ils sont énormes, en fait, dans une équipe. Et en fait, c'est pour tout ce que je viens de dire qu'en fait, les full remotes, ça se passe extrêmement bien chez Agicap.
Ouais, parce qu'il y a une proximité et au fur et à mesure, une harmonisation des méthodes, des visions, des approches qui se fait, quoi, avec tous ces échanges.
Exactement.
OK. Et je présume qu'avec votre croissance, vous êtes constamment en train de faire des changements parce que il y a une définition des startups et vous êtes encore dedans, presque scale-up maintenant, mais c'est que c'est une société qui est en permanence en crise. Vous devez faire des choix d'architecture et de techno, d'outils en permanence. Qui prend ces décisions et comment vous êtes sûr de faire les bons choix?
En fait, chez Agicap, il n'y a pas un grand Manitou technique qui va dire aux autres comment faire. En fait, okay, au sein d'une équipe, tout le monde a son mot à dire sur les choix impactants, qu'ils soient technologiques ou architecturales. Il n'y a pas d'architecte chez Agicap, ou plutôt, on est tous architectes pour les gens qui le désirent. Toutes les décisions qui sont importantes pour l'avenir d'Agicap, d'un point de vue technique, on les fait dans une réunion technique facultative, où les gens, s'ils le désirent, vont la rejoindre et discuter et débattre, parce qu'on est vraiment sur de l'échange d'idées, sur où est-ce qu'on veut aller et comment on va le faire. En fait, moi, chez Agicap, tous les recrutements, j'essaye que ce soit des gens qui soient talentueux, compétents et intelligents. Et si moi, je recrute ce genre de personnes, ce n'est pas pour qu'une fois qu'elles soient là, leur dire quoi faire. C'est justement pour qu'elles puissent dire « on va faire ça ». En fait, redonner ce pouvoir aux tech, ça a eu vraiment un impact monstrueux chez Agicap. Et en plus, ça les responsabilise. C'est-à-dire que quand une équipe, on leur dit vous allez faire ça, que vous pensez que ce soit une bonne idée ou une mauvaise idée, c'est pas mon problème, vous allez faire ça, que ça marche ou que ça marche pas, juste ils s'en foutent, quoi. Ils sont juste là, ils font leur code et ils ont leur paye, et fin de l'histoire, quoi. Et du fait que c'est eux qui font les choix, et que c'est eux qui disent où est-ce qu'on va, ça les responsabilise.
Ils doivent les assumer.
Voilà, exactement. Ils doivent les assumer. et du coup, ça marche vraiment super bien chez Agicap.
Ok, top. Et du coup, si on parle des technos, dans votre univers, quels sont les outils ou les stacks techniques qui sont déployés?
Si je les énumère, côté back, on est sur du .NET Core, on est sur du pattern CQRS, on fait beaucoup de conception en DDD, Domain Design Driven. On est en ce moment en migration microservices. Côté front, on est sur de l'Angular, on est sur un store en NGRX, on est sur de l'Angular Material. Dans tous les cas, pour le développement logiciel, on fait énormément de tests, c'est très important pour nous, que ce soit des tests unitaires, d'acceptance, end-to-end, Jenkins, parce qu'on aime bien le BDD. Certains utilisent le TDD, mais c'est pas une obligation. Côté DevOps, c'est infra, on est en intégration continue, avec des outils un peu classiques tels que Docker, Kubernetes, Terraform, Ansible.
Et sur le cloud, du coup, vous utilisez quelle plateforme ?
Actuellement, on est sur Azure. Okay. On est en forte réflexion pour passer sur la GCP, donc sur la Google Cloud Platform.
Ok. Il y a un élément jusqu'ici qui ressort pas mal dans ton discours, c'est j'ai l'impression que vous êtes hyper sensible à la qualité. Enfin, t'en parlais tout à l'heure un peu dans le regard. Mm-hmm. Tu confirmes, et en quoi c'est important cette qualité ?
En fait, ouais, c'est vraiment super important et c'est même plus qu'important, ça fait vraiment partie de notre culture. L'idée, c'est qu'on a une croissance qui est tellement grande et nous, on a des ambitions qui sont tellement grandes qu'en fait, on ne peut pas se permettre de aujourd'hui faire des choix qui sont très court-termistes, en mode on veut aller vite, on veut avoir une feature tout de suite.
Pas de pansement, quoi, pas de réponse court-terme.
Exactement. Pas de réponse court terme. Nous, le but, c'est que vraiment, dans deux ans, dans un an, deux ans, trois ans, voire plus, l'application marche toujours aussi bien. On se retrouve pas dans une situation où tu passes plus de temps à corriger du bug que à créer la feature, que dès que tu crées une feature, en fait, t'as créé 10 bugs, que tes clients, ils passent leur temps à dire, en fait, Agicap, c'est nul, il y a des bugs de tous les côtés. Ça, c'est exactement là où on veut pas se retrouver. Nous, on veut tout l'inverse. On veut que, dans cinq ans, rajouter une nouvelle feature, ce soit aussi simple qu'aujourd'hui. On veut que le développeur, quand il va finir sa journée, il se dise « j'ai pu faire du bon travail, j'ai pas eu une pression malade du produit pour finir ma feature à l'avance, je sens que ma feature, j'ai pu prendre le temps de la faire comme il faut pour qu'elle soit scalable et pour qu'elle soit lisible par les prochains développeurs, etc. etc. » Vraiment que tout soit fait pour que le travail soit bien fait, quoi.
Ouais. Et du coup, a priori, ce que tu dis, je pense que tout le monde achète. Dans 5 ans, la feature à développer est aussi facile que maintenant. Mais ça se traduit concrètement comment cette attention à la qualité dans ton orga et dans ton management.
Mmh. Alors du coup, je pourrais citer des choses qui sont un peu classiques, on fait du clean code, on teste, on applique des bonnes pratiques de développement telles que Solid par exemple. Mais en fait, c'est plus poussé que ça. C'est comme je disais, c'est vraiment ancré dans notre culture à tous les niveaux chez Agicap. On ressent cette culture. On ressent que tout le monde est là pour créer le meilleur produit. Par exemple, si je prends comme exemple la relation qu'on a avec le produit. En début de sprint, quand le produit vient nous annoncer la nouvelle feature, ce qu'il va falloir réaliser, il n'y a pas ce moment un peu gênant où tu vas devoir aller négocier avec le produit pour avoir un peu plus de temps pour pouvoir peut-être faire un peu de refacto ou alors faire un peu plus de conception. Tu n'as pas besoin de t'épuiser à dépenser de l'énergie pour gagner du temps. En fait, la question qu'on se pose en début de sprint, c'est jamais est-ce qu'on va faire les choses bien, est-ce qu'on va faire de la qualité, mais c'est toujours comment on va faire de la qualité. L'énergie que nous, on dépense, c'est vraiment à cette recherche du comment et pas de la possibilité. Donc là, j'ai pris l'exemple de la relation avec le produit, mais ça se ressent aussi, par exemple, à la relation entre les développeurs. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait des code reviews, mais aussi, je peux aussi citer, on fait pas mal de peer programming, c'est-à-dire que les sujets qu'on sent qu'ils sont compliqués, qu'en plus, ça a un grand impact, que s'il y a un bug, ça va être catastrophique. Les sujets où on ressent le besoin, on se met à deux pour les faire. Il y a deux développeurs qui programment ensemble pour être sûr de bien la faire. Ça se ressent aussi au cours d'un développement, c'est-à-dire que quand on va développer sa feature, forcément la feature, elle est en interaction avec du code de d'autres membres de l'équipe. Si on voit que ce code-là, il est pas forcément folichon, et ben malgré que c'est pas mon code, on va aller l'améliorer. C'est, en fait, on est tous dans le même bateau. Et ce principe-là s'appelle le principe de Boy Scouts. On essaye de tout le temps améliorer le code, même si c'est pas sa feature. Et il y a un truc supplémentaire que je pourrais citer et qui est vraiment game changer, c'est on alloue du temps à chaque sprint à faire des tâches qui ne sont pas de l'ordre de la feature. Il y a 20% du temps de chaque sprint où on fait pas de la features et les membres d'une équipe décident entre elles quels sont les sujets techniques importants où on peut s'améliorer. Ça va être par exemple de la refacto, ça peut être de l'amélioration de versions de librairie, ça peut être de la réflexion de il y a telle technologie, franchement, je pense vraiment que c'est ce qu'il nous faut, mais par contre, personne n'en a déjà fait. Je me vois pas la pousser, alors je sais même pas comment elle marche, donc on va prendre le temps de l'étudier, cette technologie. Ça va être, par exemple, d'améliorer l'architecture. Vraiment, c'est ce temps qui est consacré à l'amélioration technique continue qui fait que on est tous super sereins dans le fait qu'on a un logiciel aujourd'hui de qualité et que ça va le rester.
Ok, et j'ai l'impression qu'effectivement, au-delà de l'orga, c'est le mindset qui est quand même hyper recherché, et tu as parlé pas mal de l'importance de la qualité des recrutements. Je pense que Valentin ne doit pas s'ennuyer. Et vous faites comment concrètement pour vous assurer que les recrutements, les candidats que vous rencontrez, que vous onboardez, soient compatibles avec cette culture tournée autour de la qualité? Et d'ailleurs, il ressemble à quoi le process de recrutement pour quelqu'un qui veut rejoindre ton équipe?
Du coup, chez Agicap, on va du coup tester les différents candidats. Mais ce qui est bien important de comprendre, c'est que nous, ce qui nous intéresse dans le développement, ce sont les connaissances de fond. Ce sont, est-ce que le candidat va, par exemple, maîtriser les principes objets? Est-ce que le candidat va maîtriser les principes architecturaux et sait faire une application scalable? Est-ce que le candidat maîtrise le clean code, etc.? En fait, la techno en soi nous intéresse peu. Je reçois tous les jours...
Parce qu'elle va évoluer, celle-ci.
Aussi. Je reçois tous les jours des gens qui font du PHP, du Java, du Python, du Node.js. En aucun cas, c'est quelque chose que je mets en point négatif. C'est pas sur ça que moi je les évalue. Et du coup, nos entretiens se découpent en deux grandes parties, en deux grands tours. La première, qui se veut vraiment théorique. Le candidat va avoir une discussion avec nous. C'est vraiment sous forme de discussion où on va aller explorer ensemble tous les grands principes de développement, tous les grands fondamentaux, vraiment pour voir si d'un point de vue théorique, tout est OK, si et il connaît et il maîtrise. On fait vraiment une grande discussion. Et ensuite, on a un second tour qui, lui, par contre, se veut beaucoup plus pratique, où en fait, on va donner un sujet de cas pratique à programmer au développeur et il va le développer devant nous en ayant une discussion. C'est-à-dire qu'en fait, chaque chose qu'il va faire, on va l'inviter à discuter avec nous de pourquoi il l'a fait. Nous, ça va vraiment nous permettre de comprendre comment la personne raisonne. Pour caricaturer un peu, je préfère quelqu'un qui fait une mauvaise ligne de code pour les bonnes raisons qu'une bonne ligne de code pour les mauvaises raisons. Et ce deuxième cas, il arrive très souvent. Il y a beaucoup de gens qui font des choses, des bonnes pratiques, parce qu'on leur a dit que c'est des bonnes pratiques, mais qu'en fait, ils n'en comprennent pas les subtilités. Donc, c'est très important pour nous, là, cette partie pratique. Et aussi, là, tout ce que je viens de dire, c'est le point de vue technique, mais on juge, dans ces deux tours, le point de vue humain. Comme je disais tout à l'heure, moi, le fait que la personne soit bien intégrée dans l'équipe, c'est super important. Si je sens que la personne, vraiment, elle n'a pas la même mentalité que nous, ça sert à rien. Même si elle est bonne techniquement, je sais que ce candidat sera pas heureux chez nous et que nous, forcément, l'équipe sera pas heureuse avec elle. Le côté humain est très important dans nos entretiens. Du coup, tout se fait sur un support de visio, puisqu'on fait pas mal de full remote. Les gens qui sont sur Lyon, qui désirent nous voir en réel, forcément, on accepte. Forcément, on le fait en présentiel quand il n'y a pas de Covid. Et nos entretiens se veulent relativement rapides. C'est-à-dire qu'en une semaine, voire une semaine et demie, normalement, nous, on est capable de donner une réponse.
Parce que justement, vous êtes un peu dans une démarche industrielle et qu'à la fin, tu sais rapidement interpréter un entretien.
Je ne sais pas si le mot industriel me plaît beaucoup, mais...
Ouais. Parce que vu la croissance, il y a quand même, tu rencontres, j'imagine, un grand nombre de candidats, quoi.
Mais en tout cas, on est rodé, en tout cas, ouais.
Ouais, ok. Et un mot sur le futur de la tech et de la R&D chez Agicap. Quels sont les enjeux à venir sur un plan organisationnel et technique chez vous ?
Du coup, comme on a pu dire avant, nous, notre ambition, c'est vraiment d'avoir une grande croissance internationale. Du coup, ça implique beaucoup de choses. Tout d'abord, de la features. C'est-à-dire que nous, on veut vraiment continuer à étendre nos champs de valeur et continuer à apporter de la valeur à nos utilisateurs. Du coup, beaucoup de features. Il y a tout un panel d'enjeux de scalabilité. Donc, être capable d'aborder 10 utilisateurs qui se connectent en même temps, c'est pas pareil qu'en aborder 1 million. Donc, il y a vraiment cet enjeu. Et la dernière, c'est, qu'on a pu d'ailleurs un peu l'aborder tout à l'heure, c'est celle de l'organisation des équipes. C'est réussir à tous ensemble trouver des solutions pour qu'on puisse bien travailler et bien communiquer tous ensemble, malgré qu'on va être de plus en plus.
Ouais. C'est clair, c'est un gros enjeu technique et de, on va dire, de synergie entre les équipes et de capacité à bosser ensemble avec des bonnes, on va dire, un bon relais entre équipes. À titre perso, et en tant que jeune CTO que tu es, j'imagine que tu as dû faire des erreurs, ou que tu as rencontré des difficultés. Si on devait lister les sujets qui t'ont donné le plus de fil à retordre jusqu'ici, ce serait lesquels?
Forcément, du coup, c'est un sujet qui me vient en tête, vu qu'on en parle beaucoup depuis tout à l'heure. Celui de la culture, c'est vraiment, vraiment pas simple à mettre en place, qui est que les gens ont du mal à comprendre cette façon de travailler. Les gens, très souvent, ils préfèrent un tout de suite qu'un demain. Et réussir à faire comprendre aux gens que c'est comme ça qu'on travaille et c'est comme ça qu'on veut travailler, c'est pas tout le temps simple. Et souvent, la bonne façon de faire, c'est après coup. C'est prendre par la main et dire, regarde, à cette époque, on a fait tel choix. Grâce à ça, aujourd'hui, on a ça. On en est fier. T'en es content, ça t'impacte aussi. Par exemple, ça peut être un sales qui comprend pas pourquoi telle feature, ça met autant de temps à sortir. Bah, du coup, il faut expliquer. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. Il faut pas qu'il y ait cette impression qu'en fait, nous, on est lent. Parce que, objectivement, si on regarde sur une échelle de long terme, on est très rapide. On a une capacité de développement très rapide parce qu'on fait extrêmement peu de correction de bugs. Mais si on regarde au court terme, eh ben, c'est pas ce qu'on voit. Et du coup, vraiment, si je dirais qu'il y a un sujet qui me donne beaucoup de fil à retordre, c'est réussir à faire comprendre ça aux gens.
Ouais. Merci, c'est très clair. Quelques questions avant de nous quitter, mais sur qui nous donneront un peu de matière sur qui tu es et ton expérience aussi. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat comme tu as fait, quel serait-il, ce conseil?
S'il y avait vraiment un conseil qui vaut de l'or, ce serait celui de valider ses hypothèses. C'est-à-dire qu'une erreur que beaucoup de gens font, et que j'ai pu faire à l'époque de mes nombreux projets entrepreneuriaux avant Agicap, c'était celui de t'as une idée, tu penses que c'est la meilleure au monde, tu t'enfermes dans une tour d'ivoire pendant un an et tu vas la développer, et un an plus tard, tu la mets sur le marché et ça marche pas, j'ai perdu un an de ma vie. Vraiment, il faut comprendre que c'est ultra important de se confronter à la réalité, de se confronter au marché le plus rapidement possible. Il faut voir si ces hypothèses sont vraies, si elles le sont pas, d'ailleurs elles le sont souvent pas, être capable de pivoter son idée pour qu'elle le devienne. Voici mon conseil.
Ouais, et c'est exactement ce que vous avez fait au début en rencontrant des centaines de personnes dans des secteurs complètement variés, à des rôles différents, et en étant, on va dire, ouvert à la bonne idée qui pourrait être même donnée d'ailleurs par les personnes que tu rencontres, pas forcément en venant de toi d'ailleurs.
Tout à fait.
Quelle est la boîte techniquement qui t'inspire le plus en ce moment ?
Alors moi, je suis un énorme fan d'Elon Musk.
Okay.
Du coup, de toutes ces boîtes, c'est SpaceX qui m'impressionne le plus. L'histoire est juste fabuleuse, que ça soit dans la réalisation ou dans l'ambition. J'ai extrêmement hâte de vivre le moment où l'humanité mettra son premier pied sur Mars. Donc clairement, SpaceX, ou de plus façon générale, Elon Musk m'inspire énormément.
Ouais. S'il y a une techno qui, selon toi, va être un incontournable là, dans les 10 ans à venir, ce serait laquelle ?
J'ai même presque aucun doute qu'elle est incontournable. C'est la réalité augmentée. Pour moi, vraiment, c'est une valeur infinie. C'est vraiment un must-have qu'on aura dans 10 ans. La grosse problématique de ce techno, c'est le time to market, qui sera vraiment dur à trouver. C'est qu'aujourd'hui, une boîte qui sent en réalité augmentée, je pense qu'elle ne marchera pas. Mais dans 10 ans, je pense que ce sera trop tard. Et trouver le bon moment, ce sera extrêmement compliqué. Mais je pense que dans 10 ans, tout le monde utilisera la réalité augmentée.
Et réalité augmentée et réalité virtuelle, c'est la même chose ?
Pas du tout. Réalité virtuelle, c'est quand tu mets un casque sur les yeux et que tu ne vois pas le monde extérieur. Et réalité augmentée, c'est quand tu vois le monde extérieur avec des choses en plus.
Ok, c'est à peu près l'inverse. Ok. Bien, merci pour la précision. Est-ce qu'il y a un bouquin que tu conseillerais à tout bon ingé ou tout futur CTO, CPO de lire ?
Oui, je vais en conseiller deux. Le premier, c'est pour tout bon ingé. Le minimum du minimum à lire, c'est le Clean Code de l'oncle Bob. Comme tu as compris, les problématiques de propreté de code me sont très importantes. Du coup, vraiment, je le conseille. C'est vraiment la base de tout. Et pour un CTO, je conseille le dernier en date que j'ai lu, qui est An Elegant Puzzle de Will Larson, qui est un livre qui explique comment bien gérer l'organisation lors de la croissance d'une boîte. C'est vraiment une mine d'or. Donc vraiment, je le conseille.
Elegant Puzzle, c'est ça ?
Exactement.
Ok. Un mot un peu plus perso, mais t'imaginais vivre ce que vous vivez actuellement au moment où vous vous êtes lancé avec Clément ?
Une chose est sûre, c'est que dès le début, on visait très gros. On n'avait pas envie de faire une petite TPE. Pour autant, est-ce qu'on s'imaginait aussi gros ? Je ne saurais pas dire. Mais on voulait vraiment faire quelque chose de gros.
Ok. Et de quoi t'es le plus fier, toi, ces 4 dernières années ?
Ce qui vraiment me rend fier, moi, sur Agicap, c'est vraiment ce qu'on a réussi à faire au niveau des recrutements. C'est vraiment une grande fierté que j'ai de me dire qu'on a réussi à réunir tous ensemble et autour d'un projet commun autant de talents, autant de gens talentueuses. Quand le matin, je vais chez Agicap, je sais que toutes les personnes que je croise, même qu'ils ont été recrutés par d'autres services, je sais que c'est des gens talentueux et ça me rend très fier.
Donc la qualité des équipes en tout cas. Ok. Mm-hmm. Et autre sujet, est-ce qu'il y a une app dans ton téléphone que tu recommandes à tout le monde d'avoir ?
Recommander à tout le monde, je sais pas, mais il y a une technologie actuelle qui moi je trouve épatante, c'est toute la technologie de streaming de jeux vidéo. On peut du coup nommer Stadia ou Shadow, qui sont des technologies où tout le jeu vidéo est calculé à distance et en fait ça se stream juste les images de pendant que tu joues. Et du coup, même si t'as un tout petit téléphone, tu vas pouvoir jouer au dernier jeu next-gen. Du coup, je sais pas si je recommande à tout le monde de jouer à ces jeux-là, mais je recommande à tout le monde de tester cette techno-là, qui sont vraiment impressionnantes et qui marchent vraiment bien.
Ok, c'est noté. Si je devais inviter quelqu'un sur ce podcast qui, selon toi, a un parcours tech intéressant, tu me recommanderais qui ?
J'apprécie particulièrement Julien Dolon, qui est un Français qui a d'ailleurs qui était dans la même école que moi et une super info et qui est ensuite parti chez Microsoft, Amazon et aujourd'hui il est Director of Engineering chez Oracle. Il a vraiment un parcours impressionnant et c'est quelqu'un de très accessible. Donc si tu peux l'inviter, je pense que ce serait très intéressant pour toi.
Il y aura des choses intéressantes à raconter. Eh ben, je vais les bien noter, tu penses bien. Eh ben, parfait, on arrive au bout. En tout cas, merci d'avoir pris le temps. Petite question pour les futurs candidats qui nous écouteront peut-être aussi et qui se posent la question de postuler chez vous. Il y a pas mal d'éléments qui ressortent de ce que tu nous as raconté, entre la qualité, l'ambition, on va dire l'esprit d'équipe, le mindset aussi de tout ça. Si tu devais, toi, synthétiser, pourquoi est-ce que tu conseillerais de rejoindre Agicap aujourd'hui ? Ce serait quoi ta synthèse ?
Ma synthèse, ce serait vraiment que chez Agicap, on peut vraiment avoir un énorme impact. En fait, les features qu'on développe, dès qu'elles seront mises en production, elles vont littéralement changer la vie de dizaines de milliers d'utilisateurs. L'impact de chaque personne, il est vraiment énorme. Et en plus de ça, comme je le disais un peu tout à l'heure, on est vraiment entouré de personnes très compétentes au quotidien. Et ça, c'est ultra stimulant. En fait, ça te pousse vers le haut et ça te challenge jour après jour. C'est vraiment en fait des conditions de travail qui sont super agréables. Et du coup, si tu partages cette envie et notre culture que j'ai pu dire tout à l'heure et que ce challenge te fait vraiment envie, vraiment, postule sur agicap.com et je te rencontrerai avec un très, très grand plaisir.
Bon, eh ben c'est top, c'est bien noté. On se tient au courant pour la suite, Lucas. Bravo en tout cas pour ces 4 dernières années et longue route à ce beau projet et à toute l'équipe.
Un grand merci à toi.
Salut Lucas.
Salut.
Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, suivez-nous sur LinkedIn ou directement sur notre site togetherbytech.com. Prochain épisode dans quelques jours. D'ici là, portez-vous bien.